If your boyfriend does any of these things, you should leave him.
How to make a man obsessed with you.
Girlies, these are signs of a toxic boyfriend.
Don't chase women. They'll chase you.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sonu à l'antenne dans un podcast proposé par l'antenne UN Women. L'année 2023 est marquée par ONU Femmes sous le signe du thème du monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'inégalité des sexes. Dans le cadre de cette thématique, nous abordons aujourd'hui le sujet des liens entre réseaux sociaux et banalisation des relations toxiques. Red flag, situationship, relation toxique, ce sont des termes que nous utilisons au quotidien et qui sont tombés dans le langage courant des utilisateurs des réseaux sociaux de notre génération. Pourtant, quand on s'intéresse de plus près à leur origine, on se rend compte que ces expressions se rapportent à des modèles de relations femmes-hommes avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, souvent ancrés dans des stéréotypes de genre et des préjugés sexistes. Si les réseaux sociaux permettent d'aborder des sujets qui ont longtemps été tabous, comme les relations dites toxiques, et de libérer la parole, la normalisation de ce sujet et les blagues qui peuvent être faites peuvent aussi devenir dangereuses. Sous couvert de lever le secret sur la réalité parfois nocive des relations femmes-hommes, des stéréotypes de genre et des comportements nuisibles sont en fait perpétués. C'est donc ce sujet que nous allons traiter aujourd'hui, la banalisation des relations toxiques sur les réseaux sociaux, et plus précisément les questions de savoir comment, depuis des décennies, les relations toxiques sont banalisées au point de devenir parfois un idéal, quels sont les dangers de ce phénomène et comment renverser l'utilisation des réseaux sociaux.
Alors, il faut d'abord savoir c'est quoi une relation toxique. Il s'agit d'une relation dans laquelle le bien-être des personnes impliquées dans la relation est menacé d'une manière ou d'une autre, émotionnellement, psychologiquement et même physiquement. Lorsqu'on ajoute l'élément sexiste dans la relation, cette toxicité prend plutôt la forme des attentes dégradantes et humiliantes aux femmes par leurs partenaires masculins. Néanmoins, même si cette toxicité, on la trouve plutôt dans les relations amoureuses, ça peut aussi prendre la forme dans des relations amicales, familiales ou même professionnelles. Mais du coup, pourquoi on parle des traitements banalisés? En gros, ce qui se passe, c'est que les personnes publient dans leur compte des vidéos ou des posts en général par lesquels non seulement elles ne dénoncent pas ces types de comportements, mais l'incitent plutôt. Et du coup, on a par exemple des publications sur TikTok où il y a des trends qui normalisent le fait que leur partenaire d'une femme, leur partenaire masculin, leur parle mal. Et après, ils se réconcilient comme si rien ne s'est passé. En gros, c'était un trend sur TikTok où il y a une petite musique, il y a un slide où tout va bien, les couples, il est heureux, amoureux et tout. Et dans les slides suivants, il y a des gros mots, il y a tout un discours de haine envers la femme. Et l'objectif de cette vidéo, c'était de montrer que, alors, d'un côté, tout va bien, on est amoureux, mais d'un autre côté, j'ai subi aussi des comportements comme ça, mais c'est pas grave. Le couple continue et tu vas bien. Mais ça, c'est pas normal. On a banalisé trop ces types de comportements.
Du coup, pour les personnes qui n'ont pas forcément les réseaux sociaux ou qui passent pas leur journée dessus, on va vous montrer plusieurs exemples de trends TikTok ou de comportements banalisés qu'on peut voir justement sur ces réseaux sociaux. Du coup, par exemple, on peut penser à 365 jours, donc le film. Et en fait, ça parle d'une histoire d'amour d'un homme qui kidnappe une femme et qui l'oblige de tomber amoureuse de lui en 365 jours. Et du coup, on peut voir sur les différents réseaux sociaux que ce comportement, il est énormément banalisé, puisque apparemment, c'est l'homme idéal, qu'il est parfait. Du coup, il ne faut pas normaliser cette relation, puisque ça paraît évident, mais vraiment, entre les deux personnes, il n'y a pas de consentement. C'est l'homme qui force la femme à faire, à tomber amoureuse de lui, à avoir des relations sexuelles, à le regarder avoir des relations sexuelles aussi. Et en parlant justement des trends TikTok, on a la célèbre phrase de « Are you lost, baby girl ?» qui est devenue très célèbre et que les jeunes filles et les jeunes femmes et les adolescents surtout s'approprient en disant que c'est tellement sexy qu'un homme que tu te dis ça alors que ce n'est pas forcément non.
Are you lost, baby girl?
Donc un autre exemple aussi qui est intéressant et qui mérite d'être énoncé est celui des téléréalités qui représentent, il faut le dire, un fléau pour la génération actuelle et celles à venir. Je pense notamment à l'émission Les Princes de l'Amour ou la nouvelle télé-réalité qui fait polémique, Frenchy Shore, qui est inspirée en fait d'un programme américain, Jersey Shore. Donc pour vous dire en quelques mots en quoi consiste cette émission, ce sont en fait 10 jeunes fêtards qui sont enfermés dans une villa pour des vacances de rêve, comme ils le disent. Il n'y a aucune limite à l'obscénité, l'alcool coule clairement à flot, la sexualité est omniprésente et la vulgarité est clairement de mise. Donc pour expliciter mon propos, je vais tout simplement reprendre la phrase de Tristan, l'un des candidats de l'émission, qui disait, et je cite, « Mon objectif, c'est de toutes les baiser ».
Pour reprendre un autre exemple et assez récent et qui est beaucoup repris aussi par les jeunes, donc vous inquiétez pas, ceux qui sont pas à jour, nous allons vous expliquer. Nous avons aussi beaucoup la traîne des red flags, donc les drapeaux rouges pour traduire en français, qui sont surtout en fait, c'est le nom qu'on donne à des traits qui sont des traits de personnalité qui sont considérés donc comme toxiques, dangereux, qui sont censés nous avertir si la personne est une bonne personne ou non. Mais le souci, partant d'un concept assez positif en soi, parce que ça prévient de comportements toxiques, hélas, les réseaux sociaux se les ont appropriés et en ont fait un sujet d'humour et de blague qui revient finalement à minimiser certains comportements, les mettant sous le joug de l'humour et du rire, et donc le problème encore une fois de banaliser des comportements qui sont problématiques.
Alors on a aussi le cas des coachs en séduction sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, entre autres, parfois sur Twitter aussi, qui vont vous expliquer comment est-ce qu'on doit séduire un homme, comment est-ce qu'on doit séduire une femme. Et ce sont des conseils à base de « vous devriez attendre quelques heures avant de lui répondre ». On a aussi un exemple « tu devrais t'habiller plus sexy pour ton homme quand il rentre à la maison peut-être », qui instaure une sorte d'obsession de toujours vouloir être aimé, de toujours vouloir être dans la séduction.
Donc ces trends, c'est de l'humour, c'est marrant, on rigole bien sur les réseaux sociaux, mais en fait ça pose problème, et là vraiment on va s'intéresser à pourquoi vraiment elles posent des problèmes dans la société actuelle. Donc on peut différencier différents problèmes. Tout d'abord, en fait c'est un public qui est très jeune, et en fait l'algorithme, donc que ce soit TikTok ou Instagram dans la barre de recherche, ça va te conforter en fait dans ce que tu penses que tu es un esprit critique, ou pas d'ailleurs. L'esprit critique en fait, ça concerne surtout les mineurs, donc les gens très jeunes en fait qui sont sur les réseaux sociaux, puisque en fait on peut voir qu'il n'y a pas de vérification de l'âge, même si au niveau de la loi c'est interdit en dessous de 13 ans. Il y a de plus en plus de jeunes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, des vidéos TikTok sur lesquelles on peut tomber avec des jeunes de 6-7 ans qui sont en train de faire des danses. S'ils font des danses sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils ont accès aux vidéos qu'il y a sur ces réseaux sociaux, et ça pose problème. Ensuite, il n'y a pas de censure au niveau du contenu. Ça veut dire que tout le monde peut tomber sur les mêmes vidéos, les mêmes posts. Et c'est ça le problème, puisque les vidéos sont pas adaptées au même public. C'est pas le même public selon les vidéos. Et que tu aies 6 ou 18 ans, tu peux tomber sur les mêmes vidéos.
Donc l'algorithme, oui, reparlons-en. Reparlons-en de l'algorithme, qui est quand même un des plus gros fléaux qu'on peut noter quand même sur les réseaux sociaux, puisque pratiquement tous les réseaux sociaux ont un algorithme. Mais cet algorithme, qu'est-ce qu'il fait exactement? Eh bien, l'algorithme, tout simplement, retrace absolument tout ce que vous regardez, tout ce que vous recherchez, tout ce que vous aimez sur les réseaux sociaux, et va faire en sorte que, au final, tout ce que votre page de pour toi, votre fil Instagram, enfin, ou votre fil Twitter d'ailleurs, vous propose, ne soit que des choses que vous soyez susceptible d'aimer et d'apprécier. Et en quoi c'est un problème? Eh bien, tout simplement, ça crée un effet d'entre-soi. C'est-à-dire, tout simplement, vous allez être face à du contenu que vous aimez, avec lequel vous êtes d'accord, et forcément, les gens qui réagissent à ce contenu seront aussi des gens qui seront en général d'accord avec vous et qui seront du même avis. Donc ça crée beaucoup de problèmes, notamment dans notre sujet de normalisation des relations toxiques, parce que quand on va normaliser un comportement, eh bien on va être avec d'autres gens qui sont d'accord avec nous et du coup ça va encore plus banaliser ce comportement.
Un autre problème en lien direct avec les idées défendues par UN Women est le fait que cette banalisation des relations toxiques et les réseaux sociaux portent atteinte en fait aux droits des femmes. Donc on va ici parler d'un terme qu'on emploie de plus en plus dans notre société, qui est celui des gender roles, ou du rôle de genre en français. Donc pour le définir brièvement, il s'agit en fait des comportements que les hommes et les femmes manifestent dans les domaines privés et publics. Ce sont en fait les atteintes socioculturelles qui s'appliquent aux individus sur la base de leur affectation à une catégorie de sexe, donc homme ou femme. Donc en d'autres termes, on voit en fait que notre société, elle a un ensemble d'idées sur la façon en fait dont nous attendons à ce que les hommes et les femmes s'habillent, se comportent et se présentent. Donc à titre d'exemple, on s'attend généralement à ce que les filles ou les femmes s'habillent de manière typiquement féminine et soient polies, accommodantes, et qu'à l'inverse, les hommes soient forts, agressifs et audacieux. Juste pour faire une petite remarque, bien qu'ici on aborde principalement le point de vue occidental sur la question, il est tout de même important de souligner que chaque société, chaque groupe ethnique et culturel a des attentes en matière de rôle de genre qui sont souvent différentes. Pour aller un peu plus loin sur ce concept, ces gender roles donnent en fait naissance à des stéréotypes de genre. On peut en distinguer 4 types. Le premier, c'est sur les traits de personnalité. Donc comme mentionné dans l'exemple plus haut, on s'attend à ce que les femmes soient polies et les hommes audacieux, par exemple. Ensuite, un deuxième type qu'on peut souligner, c'est en ce qui concerne les comportements domestiques. Donc je peux prendre à titre d'exemple la vidéo virale sur TikTok d'un pasteur africain qui disait, et je cite, « La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Avec des diplômes, ta place, c'est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place, c'est à la cuisine. » Ces paroles ont été reprises des millions de fois en chansons sur TikTok par de nombreux hommes et aussi par de nombreuses femmes, ce qui interpelle du coup. Ensuite, un troisième type, c'est en ce qui concerne les professions. Donc on a par exemple en tête le fait que les métiers manuels sont destinés aux hommes, alors que les femmes seraient plus faites pour être infirmières par exemple. Ensuite, un dernier type est celui qui concerne les apparences physiques, donc avec les exemples mentionnés ultérieurement. Donc par exemple sur TikTok, on va nous dire comment séduire un homme et cela va souvent passer par l'apparence physique. Je pense notamment à ces vidéos où les femmes expliquent que pour séduire son homme, il faut porter une certaine tenue, être sexy à la maison, porter un certain type de parfum, etc. Une autre définition intéressante est celle donnée en fait au rôle de genre stéréotypé, qu'on définit comme le mâle en fait comme possédant l'objet du désir et la femme comme incarnant l'objet du désir. Donc ça, c'est une définition qu'on retrouve dans le manuel de la sexualité des enfants et des adolescents. Donc on voit apparaître en fait chez les femmes ce qu'on appelle une hyperféminité et chez les hommes une hypermasculinité, c'est-à-dire des comportements stéréotypés exagérés que l'on croit féminins ou masculins. Et c'est ça en fait qui va être accentué par les réseaux sociaux, qui vont présenter les hommes d'une certaine manière et les femmes d'une autre. Et ce sont in fine en fait ces stéréotypes de genre qui rendent les relations difficiles, car chacun estime en fait devoir jouer un rôle. Donc ce type de relation est nuisible car il ne permet pas aux personnes en fait d'exprimer pleinement leurs émotions. Donc par exemple, il est nocif pour les hommes de penser qu'ils ne sont pas autorisés à pleurer, car cela témoignerait en fait d'une faiblesse. Et les réseaux sociaux vont souvent confirmer en fait cela en présentant un vrai homme comme fort et inébranlable. L'illustration la plus flagrante de cette tendance sur les réseaux sociaux est le développement du mouvement masculiniste dans lequel plusieurs hommes expliquent que leur sexualité est bafouée par une tendance à notre temps de rendre floue la frontière entre les genres, là où femmes et hommes devraient être les seuls en fait genres existants sans pouvoir en sortir, obéissant donc chacun à un rôle prédéfini. Donc l'homme est celui qui domine, qui impose, la femme est celle qui obéit, qui satisfait. Certaines personnes appartenant à ce mouvement sont allées jusqu'à être des auteurs de plusieurs tueries au nom de leur cause. D'autres témoignent être plus jeunes, tombées dans ces penchants masculinistes sous l'influence des réseaux sociaux.
Donc, si certains de ces stéréotypes peuvent paraître anodins, et je mets des grosses guillemets en disant ça, Beaucoup ignorent en fait et beaucoup ne voient pas en fait les conséquences que ça peut avoir après, surtout au niveau des stéréotypes qu'on a autour de la femme. Donc ces stéréotypes, finalement, qu'est-ce qu'ils entraînent pour le genre féminin ? Bien tout simplement, on le voit de plus en plus, d'ailleurs c'est un phénomène qui est de plus en plus appuyé par les réseaux sociaux, c'est son objectivisation. Le fait qu'on décide qu'elle doit s'habiller d'une certaine façon, se comporter d'une certaine façon, finalement, ça entraîne une vision comme quoi on peut se permettre d'objectiviser la femme selon des critères qui sont complètement extérieurs. Donc, l'objectivisation de la femme, notre sujet traite plus des réseaux sociaux, mais c'est quand même important de rappeler quand même que ça ne date, hélas, pas d'hier. Donc c'est un phénomène que les réseaux sociaux ne font qu'amplifier, mais on avait déjà des cas, notamment, je pense que peut-être déjà certains sont tombés sur des anciennes publicités un peu rétro, où on voit des femmes qui sont des publicités pour des produits ménagers ou quoi, où on voit des femmes mises en scène chez elles ou alors dominées par leur mari. On a aussi encore aujourd'hui quelques exemples avec notamment, je pensais aux pubs de parfum. Un autre domaine, on a aussi les jeux vidéo. Un qui en a fait beaucoup parler de lui, c'était Street Fighter, avec le personnage de Chun-Li, donc hyper sexualisé, son style de combat aussi. Et il y avait, pendant une, je crois que dans un des jeux, il y avait une fonctionnalité où plus elle prenait des coups et plus elle était déshabillée. Donc, au niveau sexualisation, encore une fois, on est plutôt pas mal. On avait aussi pensé au cinéma.
On connaît tous certains exemples de films hollywoodiens, notamment. Mais pas seulement, de films qui représentent plus le personnage masculin que le personnage féminin, des films dans lesquels le personnage masculin va sauver la femme, va la séduire, va se marier avec elle, va potentiellement les accumuler, n'est-ce pas ? Et on arrive au cas des Bond Girls. Alors qu'est-ce que c'est les Bond Girls ? Certains d'entre vous, peut-être la plupart, auront déjà vu certains, voire tous les films James Bond. Et donc là, les Bond Girls, ce sont ces femmes, personnages centrales de l'intrigue des James Bond, qui vont être sauvées, remises sur le droit chemin par James, par Monsieur Bond, comme on pourrait l'appeler. Et ces femmes, généralement, dans tous les films, on remarquera qu'elles sont soit sous pression, soit dominées par le méchant, qu'elles sont retenues en otage par lui, et qu'à la fin, elles sont libérées par James, qui agit, donc comme Umberto Eco le disait dans une de ses analyses, comme un purificateur. Et généralement, cette purification, elle passe par un petit passage dans la chambre de James Bond.
Et donc oui, et comme dernier exemple, on pourrait aussi prendre forcément tout ce qui est littéraire, et notamment bande dessinée et manga. Donc pour la communauté qui s'y connaît plutôt pas mal, on a tous les caricatures des héros de shoujo qui sont quand même assez plutôt toxiques, qui montrent des relations, en tout cas des romances assez toxiques. Ou je pense aussi toujours dans l'utilisation de la femme, les super-héroïnes, surtout quand elles sont arrivées, et encore un peu aujourd'hui, hélas, avec leur tenue de super-héroïne qui sont quand même critiquées du fait qu'elles sont quand même beaucoup plus dénudées et sexualisées que les autres super-héros. Et donc, pourquoi reprendre tous ces exemples qui paraissent comme ça ne pas avoir grand-chose à voir avec les réseaux sociaux, et pourtant si, puisque tous ces exemples sont repris aujourd'hui encore en masse sur les réseaux sociaux, ils sont véhiculés, ils sont beaucoup repris, notamment par les communautés de fans, finalement. Surtout, qu'est-ce que ça a permis aussi avec les réseaux sociaux, c'est tout simplement de reprendre un terme qui avait été théorisé par du coup Laura Mulvey dans Plaisir visuel et cinéma narratif en 1975, qui est tout simplement le terme de male gaze. Donc le male gaze, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait en fait de voir comment la femme est vue sous un point de vue masculin, et notamment dans la narration de fiction, que ce soit dans les livres, le cinéma. Et donc le male gaze, c'est la vision du masculin sur le personnage féminin. Et donc le male gaze, les réseaux sociaux en sont beaucoup emparés, notamment pour le dénoncer. C'est ce qui a fait qu'est venu ensuite le female gaze, justement pour parler de la vision féminine sur le féminin, et qui du coup veut se débarrasser un peu des stéréotypes qu'on peut voir et de l'objectivisation de la femme qu'on peut voir sur différentes plateformes de fiction, donc les dessins animés, le cinéma, ce qu'on vient de citer, en fait, finalement. Et donc, les réseaux sociaux, ça a mis en avant le male gaze, mais pas seulement, ça met aussi beaucoup en avant le fanservice. Donc, le fanservice, qu'est-ce que c'est et en quoi c'est en rapport avec l'objectivisation de la femme? Donc, pour ceux qui connaissent déjà, voient peut-être vers où je me dirige. Donc, initialement utilisé par la communauté animé et manga, ce terme est aujourd'hui utilisé de façon beaucoup plus globale pour nommer un élément dans une œuvre de fiction ou une série fictive qui est ajoutée intentionnellement pour plaire au public, donc au service des fans. Mais ces éléments qui sont faits pour plaire au public sont majoritairement des éléments de nature sexuelle comme la nudité, et la nudité, vous voyez où je veux en venir, de la femme. Ce phénomène qui touche beaucoup plus les personnages féminins, donc pour reprendre l'exemple aussi des super-héroïnes et de leurs costumes, donc on peut appeler ça du fanservice. On peut du coup l'utiliser dans des contextes beaucoup plus globaux et notamment à travers les réseaux sociaux qui soit le popularise et l'intensifie ou bien le dénonce. Et donc dans les réseaux sociaux, parlons-en de la nudité et du fanservice. Même si la nudité est normalement assez censurée sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont devenus une source majeure de l'objectivisation et de la sexualisation de la femme. On peut notamment parler de certains comptes Instagram qui sont des comptes Instagram cachés. Enfin, il y en a des cachés et des pas cachés, mais dernièrement, ce qui a le plus fait parler, c'est les comptes Instagram cachés qui mettent en avant sur la page d'accueil des photos tout à fait anodines à premier abord. Ça peut être des petits chiens, des tracteurs, tout ce que vous voulez. Mais une fois que vous swipez sur la première photo, vous tombez sur des images de femmes dénudées et totalement objectivisé, et les commentaires en dessous sont assez problématiques finalement, et parce que c'est des commentaires assez lourds du type « Oh, sympa le camion, j'irai bien dedans ». Donc vous voyez un peu là où est le... Non mais c'est des vrais exemples. Donc on a ce genre de choses sur Instagram. On a aussi tout ce qui est objectivation de la femme. On a aussi tous les défis réservés en général à la gente féminine. Donc je parle notamment des défis minceur qui avaient beaucoup explosé, notamment dans les années 2010, si je me souviens bien. Je sais pas si vous vous rappelez du défi de la feuille A4. Qui avait fait beaucoup de tournées sur les réseaux sociaux, où en fait les filles étaient mises au défi de mettre une feuille A4 devant leur taille et elles ne devaient pas dépasser de la feuille. Donc on avait ce genre de défi. On a aussi sur TikTok un autre qui est arrivé, qui était le défi des écouteurs à fil, où le but c'était de voir combien de tours on pouvait faire au maximum de sa taille avec les écouteurs. Et donc c'était devenu le défi de savoir celle qui fait le plus de tours finalement et celle qui est la plus mince et qui gagne un peu le jeu quoi. On a aussi beaucoup de body shaming hein, sur les réseaux sociaux. L'exemple le plus récent qui m'est venu à l'esprit, c'est notamment Léna Situation, qui est aujourd'hui quand même une influenceuse très 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 connue et qui s'est pris des remarques notamment sur les tapis rouges dernièrement par rapport à une légère prise de poids, mais qui lui a valu énormément de haine. Et en général, elle n'est pas la seule, évidemment. Le corps de la femme est sujet à beaucoup de critiques et d'objectivisation, et notamment sur le body shaming.
Alors, et pourquoi on vous parle de tout ça? On vous a parlé des adolescents, de l'algorithme, des gender roles et aussi de l'objectivation des femmes. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ces situations-là peuvent conduire et conduisent parfois, malheureusement, à des violences envers des femmes, qu'elles soient émotionnelles ou physiques. Je vous explique tout, c'est plutôt comme un cycle. On commence par rigoler sur ces sujets-là. Après, on les normalise parce qu'on dit « Ah voilà, c'est drôle, on fait des blagues sur ça, ça devient plutôt normal. » Et ensuite, l'étape suivante et la plus attentatoire pour les femmes, c'est leur romantisation. La romantisation, c'est plutôt l'idée qu'on va idéaliser ces comportements, on va les considérer comme les vrais amours envers les femmes, on va les considérer comme la véritable manifestation de notre amour et de notre admiration. Pour les femmes, par exemple, ces substances qui changent, par exemple, on a lorsqu'un homme ose sa voix envers son partenaire. On dit que non, il manifeste passionnément son amour pour son partenaire. C'est juste, sur les moments-là, il est un peu plus passionné. Mais non, ce n'est pas quelque chose de grave. Mais si, c'est quelque chose de très toxique pour ce partenaire. Ou lorsque des hommes insultent leur partenaire, on dit que non, c'était juste énervé. Il s'est explosé d'amour sur les moments. Il ne veut pas, en fait, t'insulter vraiment. Mais c'était juste sur les moments. Tandis que vraiment, ce n'est pas qu'on doit accepter des tels comportements parce qu'on les a désignés comme romantiques, on les a désignés comme le vrai amour, la vraie expression d'amour. Et les problèmes avec ces cycles des normalisations, acceptation et justification fait que des femmes, enfin c'est 99% des femmes, laissent pas leur partenaire. Pourquoi ? Parce qu'on a intériorisé l'idée que ces comportements sont normaux, sont idéalisés même. Et pourquoi laisser un partenaire qui, même si des comportements peuvent nous faire sentir mal, au final, veut pas vraiment nous porter attente. Mais du coup, voilà, c'est un cycle très vicieux pour être très attentatoire à la liberté des femmes. Et le problème, c'est qu'on l'a même pas normalisé, mais encore plus gravement, on l'a idéalisé.
Alors, des exemples de cette romantisation, de cette normalisation de la violence, on en a plein. Et celui dont je vais parler ici, c'est le cas des Toxic Boyfriends ASMR. Alors, c'est le cas d'ASMR érotiques qui sont postés sur les réseaux sociaux, donc que ce soit YouTube, TikTok, encore une fois, ou des réseaux sociaux un peu plus privés, on va dire ça comme ça. Et ce sont des ASMR érotiques qui sexualisent, dans certains cas, la violence. Certaines de ces productions sont à base surtout de violences physiques, parfois de violences morales, des insultes, des claques qui sortent comme ça, parfois des histoires de poignardement, ça va très loin. Sous ces histoires, ces vidéos qui sont créées, on peut retrouver des centaines, voire parfois des milliers de commentaires de fans, de tout âge, souvent des mineurs, des adolescents et des adolescentes, qui déclarent adorer ces vidéos, les écouter tous les soirs. Et généralement, c'est des vidéos qui sont publiées plusieurs fois par jour, parfois par le même créateur. Donc une production très soutenue. Donc quand vous cherchez sur YouTube, par exemple, qui est accessible à tout le monde, Toxic Boyfriend ASMR, vous pouvez trouver des vidéos comme « Votre patron abuse de vous », votre petit copain toxique ne vous laissera pas partir, ou encore votre petit copain vous fait du mal. Et sous ces vidéos, typiquement, on retrouve des commentaires comme « J'adore vraiment ce que tu fais, continue. J'écoute tes vidéos tous les soirs. Pourquoi est-ce que j'aime tant ça ? La toxicité, ça m'attire. » Ou voilà, on a des centaines de commentaires de ce type. Et donc, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que les créateurs de ce genre de contenu vont jouer sur l'attirance qu'ont leurs fans pour eux, pour créer presque une sorte de culte autour de leur personne, s'imposer aux utilisateurs jusqu'à devenir omniprésents dans leurs pensées, en créant du merch par exemple, voilà. Et donc, ils vont proposer à ces mêmes utilisateurs parfois des services payants pour avoir accès aux fins des vidéos qui sont souvent à caractère pornographique ou pour permettre de passer des appels personnalisés, toujours sans vérification d'âge en général.
Donc, cette romantisation, là, ça ne s'arrête pas là, puisque du coup, toxicité complètement romantisée, elle va à un stade où des fois ça va se répercuter sur des faits réels et on n'est plus du tout dans la fiction, enfin d'ailleurs fiction non, parce que les toxic boyfriends, hélas, existent, mais on n'est plus dans inventer un personnage, là on romantise de réelles personnes problématiques et je parle notamment de la murder fandom, donc qui sont en fait une communauté de certaines femmes, certains hommes qui romantisent des meurtriers, qui romantisent en fait la violence du meurtre, qui en font en fait un fantasme. On peut notamment en prendre comme exemple un nombre, quand la série Jeffrey Dahmer est sortie, un nombre astronomiques d'édits qui sont dédiés à Jeffrey Dahmer, notamment aussi beaucoup à l'acteur, mais à édits dédiés au personnage de Jeffrey Dahmer qui a existé, qui était un réel criminel, un réel cannibaliste, et qui sont en fait des édits qui le romantisent, qui le sexualisent et qui devient en fait un fantasme. Et du coup, le problème, c'est que du coup, on romantise la violence au final à l'état pur. Parce que le meurtre, c'est quand même assez violent.
On a jusqu'ici beaucoup parlé de la toxicité sur les réseaux sociaux et donc sur la banalisation des violences, la mise en avant des rôles sociétaux qui sont instaurés par le patriarcat. Et en fait, c'est d'autant plus grave en sachant que ce sont des trends qui atteignent en majorité des jeunes, très jeunes, donc entre 12-13 ans, voire plus jeunes d'ailleurs. Et en fait, le problème, c'est qu'ils, comme je l'ai dit plus précédemment, ils ont moins d'esprit critique et n'arrivent pas vraiment à discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et du coup, là, ça va être un peu plus positif, mais on va parler des choses qui sont mises en place par des organismes sur les réseaux sociaux pour prévenir les jeunes des situations dans lesquelles la relation dans laquelle on se trouve, qu'elle soit amicale ou amoureuse, devient toxique si elle ne l'est pas déjà, attention. Et en fait, le but, c'est de donner plus d'accessibilité à ces campagnes de prévention en les mettant sur des plateformes qui sont beaucoup plus actuelles. Donc, TikTok, Instagram, Snapchat, mais je crois que j'en ai pas vu. J'ai plus vu sur TikTok et Instagram. Et surtout sur Instagram, comme je vais le montrer après. Et en fait, on le fait aussi à la télé, mais c'est une génération qui est quand même différente. Et du coup, comme les jeunes, ils sont plus sur leur téléphone, ça va être sur les réseaux sociaux. Du coup, j'ai trouvé plusieurs exemples de mesures qui sont mises en place sur les réseaux sociaux pour prévenir les jeunes. On peut penser au bureau de l'égalité d'un canton en Suisse qui a lancé plusieurs campagnes, dont une sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, qui est intitulée « Amoureux, amoureuse ». Et qui s'adresse aux 15-25 ans et qui vise à prévenir la violence dans le couple. En plus de ces actions qui sont réalisées par du coup le bureau de l'égalité, on a des choses qui sont réalisées directement par les utilisateurs des réseaux sociaux sur les réseaux sociaux. Donc on est des personnes qui peuvent rencontrer ces différents problèmes et celui-ci donc des relations toxiques en particulier. Et on peut très vite se rendre compte de l'influence de ces derniers sur nos vies en général, sur les relations que l'on a. Et du coup, dans toute cette toxicité, les gens essaient de faire bouger les choses en essayant de mettre en place des systèmes de prévention pour les plus jeunes. Donc on a des mouvements pour dénoncer les relations toxiques, comme le célèbre hashtag MeToo. Je le définis, mais normalement vous devez connaître. C'est un mouvement social qui encourage la prise de parole des femmes dans le but de faire savoir que le viol et les agressions sexuelles sont plus courants que ce qui est souvent supposé. Et donc cet hashtag permet aux victimes de s'exprimer sur ce sujet. Et donc il va permettre de dénoncer de nombreux comportements inappropriés, minimisés, ignorés, voire acceptés en raison de leur normalisation par la société patriarcale. Par exemple, on a la culture du viol qui blâme les femmes pour les agressions sexuelles et qui échoue en fait à tenir les hommes responsables de leur propre comportement. En plus de ces hashtags, on a des comptes Instagram comme le @simonemedia.fr. Donc si vous ne connaissez pas, c'est en fait un compte Instagram qui parle de l'influence de l'idéologie patriarcale sur la société en mettant en avant des témoignages de personnes publiques ou non, connues ou non. Donc par exemple, récemment, on a pu lire sur leur page un article sur Déborah Rouche, qui est cofondatrice et co-directrice de l'Institut du genre en géopolitique. On a aussi y trouver sur cette page des explications sur des trends TikTok, des faits qui posent problème dans la société actuelle et sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, on en a parlé plus tôt, mais le body shaming sur les posts Instagram des célébrités, mais aussi de la prévention, donc en cas d'agression dans les transports, que faire lorsqu'on est dans une relation toxique mais qu'on n'ose pas partir, parce que c'est pas la chose la plus simple à faire et c'est très compliqué de partir quand on est dans ce genre de relation, et des choses à faire pour aider quelqu'un qui est en danger. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'au-delà de la prévention et de la dénonciation de faits, ce compte fait vraiment preuve d'esprit critique en mettant en avant des réelles problématiques sociales et de l'esprit critique sur la société patriarcale. Et on a aussi l'arrobase préparez-vous pour la bagarre qui déconstruit ce qui est écrit dans les médias, les titres du quotidien qui prennent la défense des hommes. Donc par exemple, ça va déconstruire le fait que quand il y a un féminicide, on dit dans les journaux par exemple une femme a été tuée et c'est jamais un homme qui a tué une femme. Et du coup vraiment ce compte Instagram il est super puisqu'il déconstruit vraiment cette idée de on met la faute sur la femme et on ne dit pas que c'est l'homme qui est coupable en fait dans l'histoire. Et plus le temps avance, plus des choses, même si c'est fait tardivement quand même, elles sont faites pour rendre les réseaux sociaux plus, entre très gros guillemets, normaux, en enlevant des choses qui posent le plus de problèmes. Par exemple, le 8 novembre dernier, la plateforme Omegle, qui était un site internet de messagerie instantanée automatisée, a fermé. Lancé en 2009, le principe était de mettre en relation deux utilisateurs au hasard, de façon anonyme. Sauf que, rapidement, un problème a fait surface. Des pédophiles y sont venus sur la plateforme dans le but d'échanger et de faire des choses vraiment problématiques et dégoûtantes devant la caméra et devant des jeunes de tout âge encore. Et en fait, du coup, comme je l'ai dit, le problème, c'est dû au manque de sécurité et que sur le site, il n'y a aucune inscription et on ne doit pas rentrer son âge.
La conclusion qu'on tire de cette conversation n'est pas que les réseaux sociaux sont diaboliques, mais qu'il faut toujours avoir un recul sur le contenu que nous consommons et un esprit critique. On s'imprègne de tout ce qu'on voit et on entend. Il est donc important de véhiculer un message plus positif, moins stéréotypé de ce que c'est une femme ou un homme, car tout ce qu'on voit peut être assimilé et banalisé comme nous l'avons montré tout au long de cette discussion. Ce n'est pas grave de rigoler à la vue d'un TikTok évoquant des red flags marrants, mais il ne faut pas intérioriser ces comportements toxiques et avant tout garder en tête que les réseaux sociaux sont ancrés dans la vraie vie. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt!